tu construis ta maison à la place de la maison du bon Dieu, c'est pas n'importe qui peut venir essayer de faire une chose pareille. Et pour finir, le roi des Khazars, lui et son pays, se sont convertis. Dit Abbas, nous, les descendants des Cananéens qui avaient 3400, il y a 3400 ans. Donc c'est vous, les voleurs, qui avez conquis nos terres par la force. Comment Lutèce est devenu Paris? Je peux savoir? Ce show dédié pour la réfrochéma, la guérison complète et rapide de Chantal Khana Batkamra, avec l'aide de Dieu. À question de Nathan.
Que répondre aux Palestiniens qui nous disent qu'on leur a volé leur terre et qu'on n'a aucune légitimité à être ici?
Ok, donc le peuple d'Israël revient d'exil en terre d'Israël et il y a un peuple présent qu'on appelle Palestinien qui prétend qu'on leur a volé, on l'a usurpé, on a pris leur place. Est-ce que leur argument est-il légitime ou pas? Non. Et comment donc contrer l'argumentation? On va parler d'abord au niveau mélangé et politique et religieux. Alors, il y a quelques familles de cinglés, pas beaucoup, qu'on appelle Neturei Karta. C'est pas tous, c'est une minorité dans Neturei Karta qui s'oppose complètement au retour politique du peuple juif sur sa terre, se basant sur une Gemara, traité Ketubot, page 111, que je vous lis. Adi Rabbi Yossi, Adi Rabbi Hanina, trois serments Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Premier, qu'il ne monte pas en muraille, c'est monter en Israël en muraille. On va expliquer qu'est-ce que c'est tout de suite. Une, il a conjuré le peuple d'Israël de ne pas se révolter contre les peuples de la terre. Et il a conjuré les peuples de la terre de ne pas asservir trop le peuple d'Israël durant l'exil. Pas trop asservir. Bon, ce qui nous concerne ici, c'est le premier serment. Le peuple d'Israël ne monte pas en muraille. Ça veut dire quoi monter en muraille? Rashi, donc le commentateur principal du Talmud, dit « ensemble avec main forte ». Ensemble, en masse, par la force. Dit Neturei Karta, lorsque vous êtes venu avec votre armée, vous avez fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et les Palestiniens se sont enfuis, vous avez pris leur place, c'est en force, et en masse. D'accord? C'est l'argument principal, qui est repris bien sûr par les Palestiniens aussi. Argument faux. Pourquoi? Parce que la réalité n'est pas du tout comme ça. Arrêtez ici, c'est que la terre d'Israël était une terre presque vide. Un grand écrivain américain, 1800 et quelques, Mark Twain, vient ici en Israël. Et il raconte dans son livre que c'est terrible, il n'y a presque rien. D'accord, c'est vide, c'est détruit, il n'y a rien. Alors, il y avait quelques villages arabes, il y a aussi quelques juifs. Plus d'arabes que des juifs, mais c'est un pays qui était extrêmement peu habité. Et peu à peu, il y a une présence juive qui a commencé à augmenter. Ça a commencé il y a 300 ans avec les élèves du Gaon de Vilna, le rave de comment il s'appelle, Kallenbogen, Mishkelov, d'accord, des élèves du Gaon de Vilna qui sont venus, on appelle ça la première Aliyah, qui était tout à fait orthodoxe, montant en Israël pour mettre les bases de la venue du Messie. C'était il y a 300 ans environ. Un peu moins.
C'est
les élèves du Gaon de Vilna qui leur ont dit, vous montez en Israël, vous commencez, ils sont montés ici à Jérusalem. Ce sont leurs descendants sont les habitants de Mea Shearim, les Chalmers. Chalmers, c'est Jérusalemite, Jérusalem, d'accord. Ce n'est pas des Hasidim, Gaon de Vilna, c'est des Litaïm, d'accord. Et ils ont souffert énormément. Souffert, c'était terrible. Ils ont souffert des Arabes, ils ont souffert de la malaria, ils ont souffert de la pauvreté. C'était terrible, 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 terrible. Mais c'est grâce à eux qu'on est là, Baruch HaShem. Donc c'est un peu escamoté par l'histoire moderne sioniste athée, parce qu'on ne va pas dire que c'est les orthodoxes que ce sont les premiers, ça la fout mal un peu pour la... Mais c'est ça la vraie réalité, dans tout le bouquin d'histoire sérieux, c'est écrit clairement. Et après il y a eu d'autres alias, ça a commencé, là beaucoup plus des alias athées, bien qu'il y ait beaucoup de grands religieux. Mon aire et grand-père, c'était un des présidents de la communauté en Boukhara. Boukhara, c'est l'Ouzbékistan. C'est au nord de l'Afghanistan, en Russie orientale. Et en 1873, ça fait combien de temps? Ça fait 150 ans, hein, 150 ans, exactement l'année prochaine. Il prend, lui et sa communauté, à dos de chameau, ils viennent ici à Jérusalem, ils ont créé un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Le quartier des Bouchariens. Ma femme dit, le quartier des bons à rien. D'accord? Bon, c'est une blague. Ils étaient riches. Ils ont créé un quartier très, c'était très spatial à l'époque. Là, la ville, les rues faisaient 1 mètre de large, 2 mètres de large, ils font 10 mètres de large. Et c'est très, très, très idéaliste, très kabbalistique aussi. Ils adoraient la Kabbalah, etc. Donc c'est très, très idéaliste. Bon, et comme ça, il y a une alia qui commence à venir. Et les Juifs viennent, donc ils commencent à avoir du commerce. Donc les Arabes viennent aussi, de Damas, donc de Syrie, de Beyrouth, d'Égypte, de Jordanie, il y a du commerce, donc on vient. Et il y a commencé un plus grand peuplement de la terre d'Israël. Il y a eu un très grand peuplement en 1917. Les Anglais ont conquis, cette région turque, en 1917, dans la Première Guerre mondiale. Le général Allenby rentre en triomphe à Jérusalem. Mon grand-père, il était présent, il a vu, je crois qu'il avait 7 ans, d'accord, il a vu comment Allenby rentrait sur son cheval comme ça à Jérusalem. Ça devient maintenant mandat anglais. Et là, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui ont commencé à monter en Israël. Plus ces gens montent, plus la population aussi arabe monte, d'accord? Parce qu'il y a du commerce, ça marche, il y a beaucoup plus que dans les pays autour. Et donc, il commence à y avoir une population assez importante ici, qui était un tiers juive, environ un peu plus d'un tiers juive, et un peu moins de 2/3 arabes. À l'origine, très peu parmi eux étaient des gens de souche, on va dire palestinienne, d'ici. Eux-mêmes, j'ai déjà vu très souvent des débats, eux-mêmes reconnaissent entre eux que ah, tu sais très bien que nous, on vient du Caire, on vient de Damas, mais c'est logique, d'accord, ils sont venus ici parce qu'il y avait, des intérêts financiers à être ici. Donc, on se retrouve avec une population ici majoritairement arabe et minoritairement juive. Je ne sais plus que les chiffres, je crois que c'est 1 million et quelques de juifs pour 2 millions et quelques d'arabes, quelque chose de cet ordre-là, si je ne me trompe pas. Ok, mandat anglais. Les Anglais sont là, pas en tant que conquérants, en tant que délégués de la SDN, la Société des Nations, pour gérer ici le pays. En 1947, l'ONU vote, partage. On partage cette terre en deux. Une partie arabe, État palestinien, une partie juive, État d'Israël. Est-ce qu'on peut dire que les Juifs sont venus par la force et ont conquis cette terre? Jamais de la vie. Comme les Arabes qui sont venus l'un après l'autre lentement, eux aussi sont venus, et ils n'étaient même pas en majorité. Et ils venaient donc, par la voie normale, en bateau, ni avec les armes, ni avec les tanks, s'installaient ici. Et après, les nations ont voté un partage. Il n'y a rien de plus légitime. Il y a dans les lois internationales, un droit qui s'appelle le droit de la guerre. Quelqu'un va conquis, fait la guerre contre un autre, il conquis, ça lui appartient, du point de vue légitime. Lorsque les Anglais ont été délégués par la SDN pour avoir le mandat, donc c'est la SDN qui est la propriétaire du pays, Société des Nations, qui est devenue l'ONU. Quand l'ONU décide partage, ça a une valeur juridique valable. Les Juifs ont dit, on accepte, les Arabes ont dit, jamais, on fait la guerre. Dès que les Anglais sont partis, commence la guerre en 1948, les pays arabes qui entouraient le pays d'Israël attaquent, donc le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, tout ça, attaquent les quelques juifs qu'il y a ici, et une guerre sanglante, difficile, d'environ une année, la guerre d'indépendance. Et durant cette guerre-là, donc il y a certaines parties qui vont être conquises, d'autres qui ne seront pas conquises. Donc on a un pays un peu biscornu, mais un, avec, à la hauteur de Netanya, une largeur du pays qui fait 22 km depuis la côte, jusqu'à la Jordanie, il y a 22 km, c'est rien, d'accord, c'est rien de rien, c'est comme ça tu dépasses, tu coupes le pays en deux. Ça c'était l'État d'Israël, qui a été donc voté par l'ONU. Maintenant, quand c'est voté par l'ONU et viennent les Arabes m'attaquer, je suis en droit de légitime défense, je peux aussi me défendre. Donc je me bats et je conquis des terrains, effectivement, pas beaucoup, parce que ce qu'on a reçu à la fin de la guerre, ce n'est pas beaucoup plus que ce qui a été partagé. Mais même si c'était beaucoup, complètement légitime. Moi, j'ai accepté le vote de l'ONU, toi, tu n'as pas accepté, tu me fais la guerre, je me défends, ben, la guerre, à la guerre comme à la guerre, d'accord. On ne va pas s'arrêter de conquérir parce que tu as les beaux yeux. Tu fais la guerre, je prends des terrains. Donc on a pris des terrains, c'est tout à fait légitime. Ensuite, en 67, Nasser menace de jeter tous les Israéliens à l'eau, il masse ses armées à la frontière à Gaza. D'accord, Gaza, c'est combien? C'est combien 100 km de Tel Aviv, même moins, 70 km de Tel Aviv. Bon, ben, qu'est-ce que je dis? Beaucoup moins. 30, 60, même moins. 50 km de Tel Aviv, d'accord. Jérusalem, on est en frontière avec la Jordanie, au milieu de Jérusalem, il y a la frontière, d'accord. Et la Jordanie masse ses armées. Le Liban, la Syrie, l'Irak, deux à trois fois plus de soldats arabes menacent Israël. Et là, Dieu fait un miracle extraordinaire, regardez 6 jours. Miracle militaire extraordinaire, tout à fait anormal, on peut en parler des miracles qu'il y a eu, ce n'est pas le moment pour le moment. Donc tout à fait légitime. Le partage a eu lieu par l'ONU, ce n'est pas ce qui est écrit ici, qu'ils sont venus en force, ensemble. Il n'y a eu ni force, ni ensemble. Quand il y a eu, après que tu m'attaques, une fois que j'ai reçu le pays de façon légitime par les nations, et toi tu viens, tu m'attaques, je suis en libre défense, en droit d'autodéfense, d'accord, je peux aller et me battre avec toi. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau donc aussi, comment conquérir ces arguments soi-disant provenant du Talmud. Au niveau thoraïque, il faut expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi ce sont spécifiquement ces populations arabes? Il faut comprendre que Dieu avait un temple ici à Jérusalem. D'accord? Dieu détruit ce temple par le biais des Romains. Bien beau jour, à la place du temple, on construit là-bas une mosquée. En, si je me souviens bien, 632 de l'ère chrétienne, quelque chose comme ça. 638. Merci, 638. Il faut un mérite. Tu construis ta maison à la place de la maison du bon Dieu, c'est pas n'importe qui peut venir ici et faire une chose pareille. Alors, Zohar HaKadosh, dans Parashat Vaera, page 32, explique la raison pour laquelle ce sont les Ishmaélites, donc Ishmaélites croyant dans l'islam, pas les Ishmaélites chrétiens, qui pourront avoir la propriété politique, le gouvernement de la terre sainte d'Israël, notamment l'endroit du temple. Et il dit la chose suivante, comme ça dit Zohar HaKadosh. Il dit qu'il y a un rapport intrinsèque entre la mitzvah que nous faisons, nous les Juifs, Brit Mila, et la terre d'Israël. Cette terre est une terre que Dieu a donnée à Abraham et à sa descendance. Et lorsque Dieu annonce la nouvelle à Abraham Avinu, je donne cette terre à toi et ta descendance, il lui dit, en contrepartie, vous faites la Brit Mila. Donc en fait, on voit qu'il y a un rapport entre les deux. J'ai droit à la terre, mais à condition que moi je fasse mes clauses du contrat, qui sont faire la Brit Mila. Pourquoi, où est le rapport? C'est un peu mystique. On est bâti par rapport aux sphères célestes. La sphère qui correspond à l'organe génital s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. La base, c'est la terre. D'accord? C'est là-dessus que tout est bâti. De même, l'être humain aussi, il est bâti sur quelqu'un qui est débauché homosexuel, alors il est fichu. D'accord? La construction de l'homme se passe au niveau de comment se retenir et faire tchouva sur les péchés sexuels, c'est ça qui construit l'homme. C'est ça vraiment la construction. Sans ça, il n'y a que destruction. Donc, pour pouvoir construire une terre, il faut une base, la base. Donc, ça correspond à la Brit Mila. Le Zohar HaKadosh dit, lorsque Dieu a chassé le peuple d'Israël de cette terre parce qu'ils sont mal comportés, il a dit, ok, alors qui je mets à la place? Je vais prendre les Ishmaélites. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils font le Brit Mila. Alors c'est quoi la Brit Mila? Brit Mila, c'est la combinaison de deux mots, Brit et Mila. Brit signifie alliance. Mila, c'est l'organe génétique, d'accord? C'est le Mila, c'est le mot qu'on utilise pour désigner l'organe génital masculin. Donc alliance au niveau de l'organe génital, c'est ça Brit Mila. Maintenant, lorsqu'un Ishmaélite va et fait une circoncision, est-ce qu'il fait une Brit? Est-ce qu'il fait une alliance? C'est peut-être une Mila, peut-être il coupe au niveau de l'organe. Mais est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Aucune alliance. Moi j'ai une alliance avec toi, j'ai rien avec toi. Moi j'ai une alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah dit, Dieu dit à Abraham, dans Yitzhak tu auras ta descendance bénie à qui j'ai donné cette terre, elle sera dans Yitzhak. Abraham a eu deux enfants, Ishmaël et Yitzhak. Dieu lui dit, dans Yitzhak, donc déjà Ishmaël il est dehors. C'est Yitzhak et deux enfants, Esav et Yaakov. ne sera pas Esaü, ce sera Yaakov. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, les descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont à eux que Dieu a donné la terre d'Israël. Durant l'absence des propriétaires, donc nous, peuple d'Israël, tu vas mettre un peuple qui a à voir aussi un peu avec cette terre, parce que dans certaines mesures, ils font quand même quelque chose. Alors, Zohar dit comme ça, qu'il dit que pendant 400 ans, l'ange d'Ishmaël est monté vers Dieu, se plaindre. Il dit, pourquoi est-ce que tu as fait une alliance de donner la terre d'Israël au peuple juif? Parce qu'ils font la Brit Mila. Ishmaël aussi, ils font la Brit Mila. Dieu lui dit, mais non, je n'ai pas d'alliance avec eux. Eux, ils prennent un morceau de chair et le coupent, ok, très bien, que c'est bon pour la santé. Mais je n'ai pas d'alliance avec eux. C'est un acte qui est vide de sens. Alors l'ange d'Ishmaël vient, ok, c'est vide de sens, mais quand même, ils font quelque chose. Et pour toi, Ishmaélites, ils ne sont pas des idolâtres. Ils servent le Dieu d'Abraham. Donc ils le font pour toi, pour un Dieu unique. Alors quoi, ils n'ont pas droit à un mérite? Dieu dit, oui, ils ont un droit, tu as raison. Le Zohar dit, malheur à ce moment-là, oi, oi, malheur à cause des revendications de Ishmaël, de l'ange d'Ishmaël, qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? Quelque part, de donner la terre d'Israël aux Ishmaélites, tout le temps de l'absence juive, durant tout l'exil. Donc c'est eux, par ce mérite-là, qui pourront avoir l'endroit du temple et la terre d'Israël. Et ça leur appartenait jusqu'en 1947, 48, d'accord, 47 l'ONU, 48 fin de la guerre. Et 67 un peu plus, etc. Et encore la suite pour bientôt. Total, d'accord, on va en parler aussi à la fin. Alors, mais, rajoute le Zohar, ça c'est très très beau, il dit comme ça. Il dit, mais de même, que leur Mila, leur Brit Mila, elle est vide de sens, alors la terre aussi va être vide de contenu. Et tu vois que cette terre-là, elle est extrêmement fertile. La Torah la vante, elle réserve à la Oudvache, une terre dans laquelle coule le miel, et le lait et le miel, elle est très fertile. Aujourd'hui, tu vois que l'agriculture israélienne, c'est la meilleure au monde. On exporte dans le monde entier, d'accord, des fruits extraordinaires. Il n'y a pas mieux que les agronomes israéliens. C'est une réussite totale au niveau agricole. Comment se fait-il que pendant presque 2000 ans d'occupation arabe, il n'y avait rien? Le désert, rien! Hein? Rien! 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 Ben, quelques laitues, quelques machins, des brebis. D'accord? Des brebis.
Mais comment on sait qu'il n'y avait rien?
D'abord, tu vois les textes des rabbins de chaque époque qui racontent ce qu'il y a. Et je te raconte, je te vois, là, il y a un siècle, Mark Twain vient ici, il dit, on voit quelques cactus, c'est ce qu'il dit, le désert.
Hein?
Bédouins, beaucoup de bédouins, absolument. Les Arabes n'ont jamais été connus comme des grands agriculteurs. Ils étaient l'élevage de bétail. D'accord? Alors, le bétail, ce n'est pas fait pour l'agriculture, ça ne marche pas ensemble. D'accord? La Torah interdit d'avoir du bétail en Israël. Celui qui fait ça, c'est un voleur. Il est pas saoul, il est impropre à être témoin dans un beddin. Parce que c'est un voleur. Parce que forcément, sa brebis, elle va aller maintenant manger dans les champs du voisin. D'accord? Ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est interdit. Maintenant, la population arabe, qui est principalement paître, d'accord, ils font paître leur bétail, donc ils ne pouvaient pas avoir d'agriculteurs. En tout cas, il n'y avait pas presque, il y avait, un peu près de chez moi, il y a encore des vestiges, comme ça, on voit un peu des murailles qui ont été faites comme ça, il y avait un peu, mais très très peu, très très peu. La terre va rester vide. Pourquoi? Parce que leur Mila, eux, aussi, elle est vide. Revient le peuple juif en terre d'Israël. L'Agma a traité les Sanhedrin, page 38, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, comme quoi on est proche de la fin à l'époque messianique. Ce verset de Hezkel 36 qui dit, ô vous, montagne d'Israël, recouvrez-vous de vos fruits, de vos armes, pour accueillir mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Lorsque la terre sera donnée ses fruits de façon abondante, comme ça dit Rashi, c'est le signe le plus clair comme quoi la fin est proche. Et on voit que c'est le cas. Aujourd'hui, le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, et à la Tchouva, on n'attend plus que Mashiach. Donc c'est la raison pour laquelle eux et personne d'autre, on peut avoir... Alors il y a eu un petit royaume de Jérusalem, des croisés, il y a eu un peu les Romains, mais c'était rien, c'était tout à fait éphémère. Une conquête totale, solide à terre d'Israël, c'est grâce à ce mérite-là. La fin de l'histoire, c'est que notre mérite à nous doit monter au-dessus de leur mérite, donc il faut beaucoup se renforcer au niveau des interdits sexuels, messieurs, d'accord, qui nous écoutent aussi, et mesdames aussi, mais plus messieurs que les dames, d'accord, parce que c'est ça le critère de la victoire. C'est pas si on a des avions, des tanks, des bêtises, tout ça. La victoire, c'est à quel point on est fort au niveau de la Mila. C'est ça notre mérite de la terre d'Israël. Suite et fin, le Zohar, dans ce Zohar-là, la suite de ce Zohar, il dit comme ça, à cette époque, se lèvera un peuple du bout du monde contre Rome la coupable. Quel est ce peuple qui va se lever du bout du monde comme Rome la coupable? J'ignore. J'ignore. Ils feront la guerre pendant 3 mois. Moi, j'ai dit au début, j'avais dit, je pense que ça va être la Chine qui va se battre. Rome, c'est l'Occident. Maintenant, le maître de l'Occident, c'est l'Amérique. La tension entre la Chine et l'Amérique est très forte. Dernièrement, le Biden a dit qu'il n'hésitera pas à amener des troupes américaines s'il faut là-bas. Ils sont furieux, d'accord. Beaucoup disent qu'ils risquent un jour à l'autre d'envoyer leurs troupes chinoises ou de faire sauter la... D'accord. C'est ce que l'Amérique veut. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, parce que l'Amérique sait très bien que dans 4-5 ans, la Chine, elle est... Aujourd'hui, la Chine est le boss du monde au niveau financier. Mais le boss militaire, c'est encore l'Amérique. Dans 4-5 ans, c'est la Chine qui est aussi le boss militaire du monde. D'accord. Ils ont déjà des missiles hypersoniques qui font le tour du monde 2 fois comme ça en quelques secondes. Bon, ils avancent vite. Donc le seul moyen que l'Amérique a pour arrêter cela, c'est créer une guerre avec la Chine. Comme ça, on légitime quelques petites bombes atomiques sur la Chine. Comme ça, on reste les boss du monde. À mon avis, l'Amérique, elle va susciter cette guerre-là contre la Chine. Donc peut-être c'est ça le sens de ce soir qui dit qu'un peuple du bout du monde, la Chine, va se mettre en guerre contre Rome, la coupable, ça serait l'Occident, Rome, ça serait l'Amérique. Autre explication, plus actuelle, un pays du bout du monde, l'Amérique, qui attaque Rome, la coupable, c'est la Russie. Parce que c'est clair que la Russie, c'est aussi l'Occident. D'accord. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que Esav, donc l'Occident, c'est Esav. Le fils de Yitzhak, le frère de Yaakov, c'est pas Esav, et il était surnommé Edom, le rouge. Le midrash dit, il est rouge, son armée est rouge, son drapeau est rouge, sa terre est rouge, d'accord. Il semblerait qu'on parle de la Russie. Peut-être, j'ignore. Alors, ça serait maintenant. Alors, ou explication, la Chine avec l'Amérique, ou l'Amérique, c'est un pays du bout du monde qui vient attaquer Rome, la coupable. Ça tombe parce que la Russie est très coupable. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde, à part l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, mais sur plusieurs siècles, qui ont fait tellement de mal au peuple juif, comme la Russie et l'Ukraine. Ah, peut-être c'est pas le sens pour expliquer le mot Rome, la coupable. Ils sont coupables. Ils ont beaucoup de sang juif sur les mains. Vient l'Amérique et doit faire une guerre pendant 3 mois. Et durant cette guerre-là, à la fin, beaucoup de peuples aussi se greffent à cette guerre-là. Et à la fin, il y a un truc qui s'appelle Zevach Lachem Bebotzra. C'est un verset de Isaïe qui parle de la fin des temps. Sacrifice à Dieu à Botzra. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. Un gros boom et c'est la fin. Botzra, c'est une ville qu'on appelle en français Bassora, qui est la deuxième ville d'Irak, dans le golfe Persique. Est-ce que c'est là-bas ou c'est un nom d'emprunt? J'ignore. En tout cas, le Zohar continue et dit, il y aura ce grand boom atomique, ou pas, d'accord, c'est moi qui rajoute le mot atomique, hein, ce grand boom. À ce moment, c'est marqué que Dieu prend la terre d'Israël et la secoue comme ça, et tous les cousins, tric, tout le monde s'en va terminer, et c'est la fin. Comment il fera ça? J'ignore, mais il n'y a pas de problème, d'accord. Il se peut que Dieu dévoile sa grande sainteté, et tous ceux qui ne sont pas branchés avec Hachem, ils partent en courant. Ça répond à Shlomo Sand. Alors, il y a un juif renégat, qu'on peut dire, d'accord, super non-croyant, qui a mis un soi-disant historien, qui a fait une théorie, soi-disant théorie, d'accord, complètement ridicule, qui est récupérée beaucoup, beaucoup par les Palestiniens, évidemment. Lui dit que le peuple juif, c'est une invention du 17, ou 10, non, plus tard, 18 ou 19e siècle. Il y avait donc les nationalismes. Quand j'étais à l'école, j'ai étudié, d'accord, les nationalismes, une période où chaque pays, il a commencé à avoir être sa nation. Il dit, le peuple juif aussi, il a été créé à ce moment-là. C'est une invention. Il n'y a jamais eu avant le peuple juif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Rien. Si oui, alors ce sont les descendants des Khazars. Les Khazars, on a un livre qui s'appelle le Kuzari, écrit par Rabbi Lévi, un des grands grands sages d'Israël, qui raconte qu'il y avait un pays en Europe, il y avait un roi qui a rêvé que Dieu lui parlait, lui a dit « tes intentions sont bonnes, mais tes actions sont fausses ». Il ne savait pas ce qui se passait, alors il a amené un curé, je crois un curé et un juif, et peut-être aussi un imam, je ne sais pas, il a parlé, il a été convaincu par les juifs, et commence tout un livre qui parle maintenant de la philosophie juive. Et pour finir, le roi des Khazars, lui et son pays, se sont convertis. Alors, les Palestiniens et Shlomo Sand disent, s'il y a des Juifs, ils sont descendants des Khazars. Ok. Il se peut qu'il y ait une partie des Juifs qui soient descendants des Khazars, mais minime, parce qu'au niveau historique, tout le monde comprend bien que Shlomo Sand, il n'y connaît rien, rentre une fois dans une yeshiva, regarde les bouquins qui s'y trouvent, d'accord, Tu as des bouquins du 1er siècle, de 2 siècles avant la chrétienne, 1 siècle avant la chrétienne, 0 de la chrétienne, 1er siècle de la chrétienne, 2e, 3e, 4e, 5e, 100 000 bouquins au moins sur 2000 ans d'histoire, qui chacun cite les autres d'avant, etc. C'est quoi ça? C'est une invention. Il y a 2 siècles, quelqu'un commence à écrire 100 000 bouquins en inventant des choses. Ça ne tient pas la route. Chaque historien sérieux connaît l'histoire juive. On en parle énormément dans tous les livres, d'accord? T'as l'histoire des Juifs de France qui ont tellement souffert en France, d'accord? Les croisés, qu'est-ce qu'ils, comme, qu'ils ont fait comme, comme souffrance terrible contre les Juifs? Les Anglais, l'Espagne. Dans tous les pays, il y a eu des Juifs, et dans tout, il y a une histoire juive. Qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Le peuple juif commence il y a 2 siècles. Non, mais le type est, excuse-moi, mais historien, je vais voir ton diplôme. D'accord, je le remets en doute. Ça ne vaut absolument rien. C'est complètement ridicule. Mais c'est un très, soi-disant, très bon argument pour dire vous n'êtes pas le peuple juif d'antan. Les Arabes, ils ont un problème. Parce qu'ils savent bien qu'on est le peuple juif. Ils savent quelque part. Donc, on était là, on est parti, on revient. C'est qui le voleur? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. C'est déjà un voleur, c'est toi. Tu n'es pas à ta place. On a fait une petite excursion à Égypte il y a 3-4 ans, ici, à la mosquée de la tombe de Nabi Samuel, que vous voyez ici depuis le balcon. Donc c'est une mosquée avec la tombe du prophète Samuel, et dessous il y a une synagogue. Et on fait un petit tour dans les fouilles, et on voit que sous la mosquée, ils ont découvert une ancienne synagogue. Alors, j'ai pris une photo comme ça, clac. Alors on voit l'entrée de la synagogue avec un Magen David. On voit que c'est archaïque, ça date d'il y a 2, 3, 4, 5, 6 siècles, je ne sais pas combien. Et dessus, on voit la mosquée. Je pose la question, qui était avant? La mosquée ou la synagogue? C'est la synagogue, donc qui était avant? Et ce n'est pas que ça. Partout où tu vas, sous la mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Les vestiges du temple de Jérusalem, c'est connu. Ils ont découvert vraiment le palais du roi David, dans l'ancienne Jérusalem. Le palais du roi David. Ma fille travaille là-bas dans la boîte, hein? Quand tu sors du Kotel, t'as un portail, tu sors de la ville, tu vas sur la gauche, il y a une ça descend, comment ça elle s'appelle Shiloah. C'est la ville de Jérusalem, ancienne, elle était là-bas. Et là-bas, dès le début, là-bas, tu vas, ça s'appelle Ir David. T'as un site archéologique, t'as le salon, le palais du roi David. Bien sûr, absolument. Une fois la chaussée, ça descend jusqu'en bas, il y a une rivière, le mikvé, comment ça passait. Enfin, extraordinaire, d'accord. Toute cette terre, elle est pleine de vestiges archéologiques des juifs, de la présence juive d'il y a 2000 ans. Donc ils ne sont pas idiots, les Arabes. Ils comprennent bien que c'est nous les vrais propriétaires. Alors un de leurs dirigeants, là, comment il s'appelait Mansour Abbas. Lui, il a dit, nous on est les descendants des Cananéens. Ça c'est très marrant. Alors il y a exactement 2993 ans, exactement, le peuple d'Israël, dirigé par Josué, le continuateur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, il meurt à l'entrée de Jérusalem, et c'est Josué qui fait rentrer tout le peuple d'Israël en terre d'Israël, et ils vont conquérir ici la terre d'Israël, la conquérir. Il y a 7 peuples ici, les Cananéens, les Girgachis, le Parisien, etc. D'accord, tout ça, ils étaient ici. Hein? Non. Puis ça, c'était la région de Gaza. Et cette terre a été conquise par la force. OK? Dit Abbas, nous, on est descendants des Cananéens qui avaient 3400, il y a 3400 ans. Donc c'est vous, les voleurs, qui avez conquis nos terres par la force. Mon cher ami, va prouver que tu es un descendant des Cananéens d'il y a 3300 ans. C'est de la blague. D'après nos écrits, les Cananéens sont partis, sont arrivés en France. C'est écrit ça dans la Bible. Fin de Ovadia. Ovadia, c'est un seul chapitre, d'accord? C'était un non-juif occidental qui s'est converti et était du prophète. Et c'est marqué Knaanaim, Knaanim at Sorfa. Les Cananéens sont arrivés jusqu'en France. Quel Cananéen? Parmi les 7 peuples que vous citez tous les matins, Hachiti, Vaimori, Vaprizi, Vargiyashi, c'est qui le Prizi? C'est qui le Prizi? C'était un des 7 peuples qu'il y avait ici. Tous ceux qui ont étudié Obélix et Astérix et Obélix dans leur jeunesse connaissent le nom de la capitale gauloise de l'époque. C'était quoi? Lutèce. Lutèce, bravo. Comment Lutèce est devenu Paris? Je peux savoir? Alors, quand j'étais à l'école, j'ai fait un peu d'histoire. Il y a des peuplades indo-européennes qui ont conquis l'Europe. Indo-européennes. Visigoths et tout ça? Ouais, Visigoths, Ostrogoths, Vandales. Visigoths, Ostrogoths, Vandales, Francs. D'accord? Alors, ils viennent d'où? Ben c'est bien, ils viennent indo-européennes. Ils viennent entre l'Allemagne, on va dire l'Europe, et l'Inde. C'est quand même pas mal la marge. D'accord. Ils viennent d'où? Le prophète Obadiah, il te dit d'où ils viennent. Ils viennent d'Israël, les Cananéens. Ils se sont foutus dehors, et ils sont partis, ils ont marché, marché, marché. Un beau jour, ils sont devenus ces peuples-là, et ont conquis l'Empire romain. Les Visigoths ont conquis. Alors, les Visigoths ont conquis l'Espagne, les Ostrogoths, l'Autriche, les Vandales, Rome, l'Italie, les Francs ont conquis la Gaule. Et c'est devenu la France. Et c'était, il me semble, que c'était la variété de Cananéens qu'on appelle le Prisi. Et ils ont appelé leur capitale, ils ont enlevé le mot Lutèce, ils ont mis à la place Paris, avec un S à la fin. Prisi, c'est parisien. Prisi, Paris. C'est ça les ancêtres des Cananéens, c'est ça les ancêtres des Cananéens, Abbas là. Ridicule comme argument. D'ailleurs, c'est tellement ridicule que même eux ont arrêté de le diffuser cet argument bidon. Mais ils ont compris pourquoi ils ont avancé cet argument. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai que nous on a un problème. On dit que c'est à nous. Mais les Juifs étaient ici avant. On ne peut pas dire que non. Ça devient obvious, c'est beaucoup trop évident. Alors, ça, ce sont dire que nous on était avant les Juifs. Donc on est les descendants des Cananéens, pauvre type. D'accord. Voilà, donc tu as une réponse religieuse, politique, normalement. Voilà, y a-t-il des questions comme ça, des contre-arguments? Baruch Adonai, la'olam, amen va amen.